Chapitre 1er. Du motif et occasion qui nous fit entreprendre ce lointain voyage en la terre du Brésil. D'autant que quelques cosmographes et autres historiens de notre temps ont déjà par ci-devant écrit de la longueur, largeur, beauté et fertilité de cette quatrième partie du monde appelée Amérique ou terre du Brésil, ensemble des îles proches, ces terres, continents, aïcelles, du tout inconnu aux anciens, même de plusieurs navigations qui s'y sont faites depuis environ 80 ans qu'elle fut premièrement découverte, sans m'arrêter à traiter cet argument au long ni en général, mon intention et mon sujet sera en cette histoire de seulement déclarer ce que j'ai pratiqué, vu, oui, et observé tant sur mer, allant et retournant, que parmi les sauvages américains entre lesquels j'ai fréquenté et demeuré environ un an. Et afin que le tout soit mieux connu et entendu d'un chacun, commençant par le motif qui nous fit entreprendre un si fâcheux et si lointain voyage, je dirai brièvement quelle en fut l'occasion. L'an 1555, un nommé Villegagnon, chevalier de Malte, autrement de l'ordre qu'on appelle de Saint-Jean de Jérusalem, se fâchant en France, et même ayant reçu quelques mécontentements en Bretagne où il se tenait lors, fit entendre en divers endroits du royaume de France à plusieurs notables personnages de toute qualité que, dès longtemps, il avait non seulement une extrême envie de se retirer en quelque pays lointain où il pût librement et purement servir à Dieu selon la réformation de l'Évangile, mais aussi qu'il désirait d'y préparer lieu à tous ceux qui s'y voudraient retirer pour éviter les persécutions, lesquelles, de fait, étaient telles qu'en ce temps-là, plusieurs personnages, de tout sexe et de toute qualité, étaient en tous les endroits du royaume de France, par édit du roi et par arrêt des cours de parlement, brûlés vifs, et leurs biens confisqués pour le fait de la religion. Déclarant en outre que Villegagnon tend de bouche à ceux qui étaient près de lui, que par lettre qu'il envoyait à quelques particuliers, qu'ayant ouï parler et faire tant de bons récits à quelques-uns de la beauté et fertilité de la partie en l'Amérique appelée terre du Brésil, que pour s'y habituer et effectuer son dessein, il prendrait volontiers cette route et cette brisée. Et de fait, sous ce prétexte et belle couverture, ayant gagné les cœurs de quelques grands seigneurs de la religion réformée, lesquels, menés de même affection qu'il disait avoir, désirait trouver telle retraite, entrisseux, feu d'heureuse mémoire messire Gaspard de Coligny, amiral de France, bien vu et bienvenu qu'il était auprès du roi Henri II, lors régnant, lui ayant proposé que si Villegagnon faisait ce voyage, il pourrait découvrir beaucoup de richesses et autres commodités pour le profit du royaume, il lui fit donner 2 beaux navires équipés et fournis d'artillerie et 10 000 francs pour faire son voyage. Ainsi Villegagnon, avec cela, avant que sortir de France, ayant fait promesse à quelques personnages d'honneur qui l'accompagnèrent qu'il établirait le pur service de Dieu au lieu où il résiderait, après qu'au reste, il se fut pourvu de matelots et d'artisans qu'il mena avec lui au mois de mai au dit an 1555, il s'embarqua sur mer, où il eut plusieurs tourmentes et destourbiers, mais enfin, nonobstant toute difficulté, en novembre suivant, il parvint au dit pays. Arrivé qu'il y fut, il descendit et se pensa premièrement logé sur un rocher à l'embouchure d'un bras de mer et rivière de Salé nommée par les sauvages Guanabara, laquelle, comme je la décrirai en son lieu, demeure par les 23 degrés au-delà de l'équateur, à savoir droit sous le tropique du Capricorne. Mais les ondes de la mer l'enchassèrent. Ainsi, étant contraint de se retirer de là, il s'avança environ une lieue, tirant sur les terres et s'accommoda en une île auparavant inhabitable, en laquelle ayant déchargé son artillerie et ses autres meubles, afin qu'il y fût en plus grande sûreté tant contre les sauvages que contre les Portugais qui voyagent et ont déjà tant de forteresses en ce pays-là, il fit commencer d'y bâtir un fort. Or de là, feignant toujours de brûler de zèle d'avancer le règne de Jésus-Christ, et le persuadant tant qu'il pouvait à ses gens, quand ses navires furent chargés et prêts de revenir en France, il écrivit et envoya dans l'un d'isseux expressément homme à Genève, requérant l'Église et les ministres dudit lieu de lui aider et le secourir autant qu'il leur serait possible en cette sienne tant sainte entreprise. Mais surtout, afin de poursuivre et avancer en diligence l'œuvre qu'il avait entreprise et qu'il désirait, disait-il, de continuer de toutes ses forces, il priait instamment non seulement qu'on lui envoyât des ministres de la parole de Dieu, mais aussi pour tant mieux réformer lui et ses gens, et même pour attirer les sauvages à la connaissance de leur salut, que quelque nombre d'autres personnages bien instruits en la religion chrétienne accompagnassent les dix ministres pour l'aller trouver. L'Église de Genève, ayant reçu ces lettres et ouï ces nouvelles, rendit premièrement grâce à Dieu de l'amplification du règne de Jésus-Christ en pays si lointain, même en terre si étrange, et parmi une nation laquelle était du tout ignorante le vrai Dieu. Et pour satisfaire à la requête de Villegaignon, après que feu l'amiral, auquel pour le même effet il l'avait aussi écrit, eut sollicité par lettre Philippe de Corguilleret, sieur du Pont, qui s'était retiré près de Genève et qui avait été son voisin en France près Châtillon-sur-Loing, d'entreprendre le voyage pour conduire ceux qu'il se voudrait acheminer en cette terre du Brésil vers Villegaignon, lequel sieur du Pont, en étant aussi requis par l'Église et par les ministres de Genève, quoiqu'il fût déjà vieux et caduque, n'est-ce que pour la bonne affection qu'il avait de s'employer à une si bonne œuvre, postposant et mettant en arrière toutes ses autres affaires, même laissant ses enfants et sa famille de si loin, il accorda de faire ce qu'on requérait de lui. Cela fait, il fut question en second lieu de trouver des ministres de la parole de Dieu. Partant, après que Dupont et autres siens amis en eurent tenu propos à quelques écoliers qui pour lors étudiaient en théologie à Genève, entre autres maître Pierre Richier, déjà âgé pour lors de plus de 50 ans, et Guillaume Chartier, lui firent promesse qu'en cas que par la voie ordinaire de l'Église on connût qu'ils fussent propres à cette charge, ils étaient prêts de s'y employer. Ainsi, après que ces deux eurent été présentés au ministre dudit Genève, qui les ouïrent sur l'exposition de certains passages de l'Écriture sainte et les exhortèrent au reste de leurs devoirs, ils acceptèrent volontairement, avec le conducteur du pont, de passer la mer pour aller trouver Villegaignon afin d'annoncer l'Évangile en l'Amérique. Or, restait-il encore à trouver d'autres personnages instruits des principaux points de la foi, même, comme Villegaignon mandait, des artisans experts en leur art. Mais parce que, pour ne tromper personne outre que Dupont, déclarait le long et fâcheux chemin qu'il convenait faire, à savoir environ 150 lieues par mer, il ajoutait qu'étant parvenu en cette terre d'Amérique, il se faudrait contenter de manger, au lieu de pain, d'une certaine farine faite de racines. Et quant au vin, nulle nouvelle, car il n'y en croit point. Bref, qu'ainsi qu'en un nouveau monde, comme la lettre de Villegaignon chantait, il faudrait là user de façon de vivre et de viande du tout différente de celle de notre Europe. Tous ceux, dis-je, qui, aimant mieux la théorique que la pratique de ces choses, n'ayant pas volonté de changer d'air, d'endurer les flots de la mer, la chaleur de la zone torride, ni de voir le pôle antarctique, ne voulurent point entrer en lice, ni s'enrôler et embarquer en tel voyage. Toutefois, après plusieurs semonces et recherches de tous côtés, ceux-ci, se semble, plus courageux que les autres, se présentèrent pour accompagner Dupont, Richier et Chartier, à savoir Pierre Bordon, Mathieu Verneille, Jean Dubordel, André Lafont, Nicolas Denis, Jean Gardien, Martin David, Nicolas Raviquet, Nicolas Carmo, Jacques Rousseau et moi, Jean Delery, qui, tant pour la bonne volonté que Dieu m'avait donnée dès lors de servir à sa gloire, que curieux de voir ce monde nouveau, fut de la partie. Tellement que nous fûmes 14 en nombre, qui pour faire ce voyage partîmes de la cité de Genève le 10e de septembre, en l'année 1556. Nous tirâmes et allâmes passer à Châtillon-sur-Loing, auquel lieu ayant trouvé M. l'amiral, non seulement il nous encouragea de plus en plus de poursuivre notre entreprise, mais aussi, avec promesse de nous assister pour le fait de la marine, Nous mettant beaucoup de raisons en avant, il nous donna espérance que Dieu nous ferait la grâce de voir le fruit de notre labeur. Nous nous acheminâmes de là à Paris, où durant un mois que nous y séjournâmes, quelques gentilshommes et autres, étant avertis pourquoi nous faisions ce voyage, s'adjoignirent à notre compagnie. De là, nous passâmes à Rouen, et, tirant à Honfleur, port de mer qui nous était assigné au pays de Normandie, y faisant nos préparatifs, et en attendant que nos navires fussent prêts à partir, nous y demeurâmes environ un mois.